Petite conférence impromptue en ce début d'après-midi, on va parler du steampunk. Donc, sur le merci à tous d'être venus. On a un joli plateau qui est venu, Cécile Duquen, que vous avez sans doute, vous savez déjà, Cécile qui s'appelle Petit Cambriole, spécialement pour le festival. Mais elle a pas fait que ça, elle a fait aussi les fleurs rouges pour les joueurs en numérique. Mais elle a encore le micro qui va venir. À ses côtés, nous avons Étienne Larrier, qui est le grand maître du steampunk en France. Voilà, 1m85 et autant en hauteur. Et voilà, qui pourra répondre à toutes vos questions, qui a fait plusieurs ouvrages sur le steampunk, le France steampunk. Et Nicolas Breton, qui vient de sortir le premier tome du trilogie steampunk, qui s'appelle Les âmes envolées.
Diptyque,
le deuxième tome arrive. L'idée de cette petite conférence pour une demi-heure, c'est qu'on fasse un petit peu le point sur le steampunk aujourd'hui, que deux auteurs nous racontent comment est-ce qu'ils ont fait. Pour écrire leur dernier ouvrage, et puis quelqu'un nous donne une perspective un peu plus historique. Voilà. Que l'ensuite, pour que vous puissiez réfléchir. En matière de steampunk, Nicolas, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as construit Les âmes envolées? Et c'est pas ton premier ouvrage, qu'est-ce qui t'a donné à ce moment-là envie de passer au steampunk?
Alors, ça a été en fait les âmes envolées. C'était le fruit d'une réflexion avec François Rieu, donc mon éditeur, mon électrique. Voilà, l'idée, effectivement, il y avait cette envie de faire du steampunk, ouais. C'est cette attirance parce que j'ai déjà fait du roman historique, etc. Donc je suis pas mal dans ce genre d'affaires déjà. Et effectivement, c'était une manière de retrouver ces ambiances à la Jules Verne, comme ceci. Sachant que maintenant le steampunk est, et on va en parler, hein, certainement, c'est un style établi, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des choses comme ceci. Alors, il y avait visuellement beaucoup de choses qui étaient déjà, qui sont visibles, les goggles, les corsets, etc. Toutes ces choses-là, ça fait partie de l'identité un petit peu première, évidente, même si évidemment, après ça, il y a toute une créativité qui se fait autour. Et donc l'idée, c'était pour moi, hein, entre autres, en plus de l'Uchronie, c'est-à-dire de créer une histoire parallèle à celle qu'on connaît, et bien, c'était de faire, de partir de ces objets du steampunk et puis leur donner un petit peu une raison d'être dans le roman. Voilà, c'était l'idée.
Comment est-ce que tu as construit ton univers exactement? Comment il est? Est-ce que tu nous en parles, des âmes envolées?
Alors, l'idée de base des âmes envolées, c'est que la voiture n'a jamais été inventée. Voilà. La voiture n'a jamais été inventée, et puis on a trouvé très vite que le chemin de fer était une idée anglaise, donc une mauvaise idée. Et donc, du coup, eh bien, ça change. Ça ne change pas fondamentalement la société, la France, l'Allemagne, avant la Première Guerre mondiale, et donc il y a quand même des conflits qui se font, etc. Mais il y a aussi beaucoup de choses sur les détails qui changent énormément. Et les vies des gens sont transformées. Et donc voilà, et donc c'était effectivement, à partir de là, il y a cette première idée, puis un roman, c'est la cascade qui se crée à partir de cette idée-là.
Comment on se déplace dans ton univers, s'il n'y a pas de voiture ni de train?
C'est que des zeppelins, des aérostats, des ballons, des... voilà. Alors je me suis amusé à faire donc tout un univers où plutôt que d'avoir les cabriolets, les différentes typologies de voitures, mais en fait des typologies, mais de ballons. Donc ils ont chacun des noms, il y a le phaéton triple chambre, il y a le etc. Et donc c'est tout effectivement le même développement, si vous voulez, qu'il y a eu sur l'automobile, mais qui se retrouve dans les aérostats. Au-delà même de ce qui a pu exister réellement, beaucoup plus imaginatif sans doute que ce qui s'est fait.
Alors même question un petit peu pour toi. Cécile, comment tu construis tes univers de steampunk?
Alors, mes univers steampunk, donc c'est concerné pour les fleurs rouges et aussi pour les cambrioles. On en parlait un petit peu hier, en fait. Moi, je n'aborde pas vraiment ça du point de vue de la technologie, mais plus du point de vue de l'humidité, en fait, dans le roman. Donc, le steampunk, c'est vraiment un genre fluide pour moi, qui amène, qui prend de plein de genres différents, comme le chronique, comme tu disais, Nicolas. Mais aussi le roman d'aventure, le roman d'espionnage. Déjà trois genres qui sont assez présents au steampunk. Et j'aime bien en rajouter d'autres. Donc comme la dystopie, le western, etc. Et donc moi, le steampunk, j'adore vraiment par la question du genre littéraire. Donc mon steampunk, en fait, c'est plus au niveau de la... Mes univers sont plus créés à travers la l'hybridité de différents genres littéraires, à travers la technologie. D'ailleurs, dans les foulards rouges, on m'a dit « Ah, mais c'est du steampunk, mais c'est pas un rappeur. » Parce qu'effectivement, dans les foulards rouges, la technologie repose sur ce qu'on appelle la magie électrique. Voilà, donc c'est tout à fait une approche différente, mais pour autant, ça reste du steampunk.
Et en même temps, dans Phénicon Royal, il y a quand même une présence de mécanique qui est importante.
Oui, mais pareil, dans Phénicon Royal, la mécanique, elle n'est pas vraiment un rappeur. C'est aussi une mécanique qui fonctionne à la magie, qui est basée sur une approche... On n'est plus dans la magie qui provoque les mécanismes que l'inverse. Donc encore quelque chose d'hybride, les animaux mécaniques en soi c'est un phénomène hybride, donc c'est toujours ce qui m'intéresse, le thème de l'humidité du métier.
Étienne, quel regard tu portes sur nos deux auteurs et sur leurs univers similaires ?
Des regards extrêmement bienveillants, parce que justement nous sommes dans toute la richesse de la production steampunk actuelle, où il est possible d'aller dans des pistes totalement différentes, sans risquer de se répéter, tout en gardant une personnalité forte. Et c'est ce qui fait l'intérêt à mes yeux du steampunk en droit de mouvement, c'est de proposer une somme de variations qui ne sont pas ni des répétitions, ni des bégaiements, mais toujours quelque chose de personnel. Le steampunk n'est que ce que l'on en fait. Donc chacun a la possibilité d'explorer, d'apporter quelque chose de nouveau. Et là c'est vraiment la grande force du steampunk francophone, de ne pas se formater.
Comment il se place dans la filiation du steampunk ? Parce que le steampunk a quand même une histoire avec de grands auteurs, Jean-Philippe, Cécile ou Nicolas. Est-ce qu'on est vraiment en droite ligne ou est-ce que c'est vraiment juste des histoires d'univers et de thématiques et qui font vraiment des choses à leur sauce complètement nouvelles ?
Quand on voit l'histoire de la science-fiction, pendant longtemps, il y a eu la science-fiction francophone qui restait sous tutelle par rapport aux grands maîtres de l'âge d'or de la science-fiction américaine, tandis qu'avec le steampunk, il y a eu une accélération qui s'est faite, et très tôt, en fin de compte, une émancipation, aussi bien esthétique que thématique, qui fait que l'on parvient à raconter des histoires françaises, un steampunk français, qui ne cherche pas à lorgner du côté des grands modèles, tout en assumant sa spécificité, son originalité.
Question à tous les deux. Est-ce qu'il y a des auteurs steampunk qui nous ont un petit peu influencés et comment est-ce que justement sur cette histoire de filiation vous le situez ?
Pas évident, mais en fait, j'ai pas une énorme culture au niveau des auteurs steampunk. Moi, ma culture à la base c'est une culture de science-fiction, de roman historique, de choses comme ça. Alors effectivement, je me suis penché évidemment sur les créateurs du mouvement. Voilà, j'ai eu aussi évidemment cette curiosité. Je veux dire personnellement, en tout cas, si j'ai une tas d'influence, évidemment, comme tout écrivain, mais elle viendrait peut-être pas nécessairement directement du steampunk. À part, et ça va rejoindre ce que tu disais sur l'originalité française là-dedans, ce qui se passe, on a eu d'autant moins de peine à se s'émanciper de la tutelle américaine dans le steampunk que ça rapporte à quelque chose qui en France fait partie totalement de notre culture, qui est le Jules Verne, qui est toute cette période-là, qui correspond à au grand développement de la révolution industrielle et qui fait partie de notre culture. Donc on n'a aucun problème à aller taper justement là-dedans, tout à fait.
C'est la même question pour toi, Cécile.
Donc au niveau des influences steampunk, etc. Un peu la même réponse en fait, dans le sens où moi non plus j'ai pas vraiment de modèle steampunk. Mes modèles littéraires à moi sont plutôt basés dans la littérature populaire, etc. Qui à l'époque était considérée de science-fiction, même si maintenant on peut dire que Jules Verne est un père spirituel du steampunk, pour autant on peut pas dire qu'il en faisait. Donc c'est vraiment quelque chose c'est une question très difficile. Parce que j'ai pas vraiment de réponse à apporter. J'ai découvert le genre du steampunk après coup, c'est-à-dire que je ne savais pas que j'en faisais, je ne savais pas que j'en lisais. D'un coup, on m'a dit « Ah, mais ça, c'est du steampunk », donc du coup, ça m'est venu après. Et c'est une fois qu'on m'a donné le nom de ce que je lisais, je me suis dit « Ah, peut-être que je pourrais m'intéresser à ce qui se fait ». Mais du coup, ça m'a influencé après coup, ça m'a influencé sur le développement, la pensée du steampunk, mais sur ce que j'ai écrit et ce que j'ai lu avant, j'ai pas eu de père et des mères du steampunk. Je ne sais pas comment on peut en parler, mais voilà.
Une petite question, parce que là on voit plein de costumes et d'artisanat steampunk, vous pouvez voir dehors. L'influence visuelle du steampunk, parce que là on est resté très littéraire jusqu'ici. Est-ce qu'il y a des films ou est-ce que ce sont des artisans qui vous influencent dans votre travail d'écrivain? Est-ce qu'il y a des trucs visuels où vous dites là il y a quelque chose?
Alors, oui, c'est vrai qu'il y a tout un aspect visuel sur steampunk. Alors, comme j'expliquais, quand j'ai fait quand j'ai fait les premières idées du roman, effectivement, je me suis effectivement j'ai regardé un peu ce qui se faisait au niveau visuel dans le steampunk et ça m'a pas mal donné d'idées en fait. Voilà. Alors j'ai détourné un petit peu ces choses-là, c'est-à-dire j'ai voulu leur donner une véritable raison d'être. C'est vrai que le steampunk, il y a cette recherche esthétique. Et des fois, il y a beaucoup, c'est pas une critique de ma part, mais il y a vraiment, voilà, c'est une recherche d'accessoires qui vont avoir pas de fonction pratique. Mais moi, dans l'idée du roman, c'était effectivement de dire s'ils avaient des lunettes, qu'elles servent, etc. Alors, il se trouve qu'en l'occurrence, les lunettes, il y a des lunettes avec un petit bout d'esprit, un petit bout d'âme de Shangri-La qui est coincé dedans et qui permet de voir un autre univers. C'est les corsets en particulier, parce que les corsets sont très très courants dans steampunk. Et je suis parti là-dessus, et comme tout le monde se déplace en ballon, etc., c'est des corsets d'aérostat. C'est-à-dire que c'est ce qui sert de sécurité. Tous les hommes, les femmes, etc., c'est une fonction bien pratique et bien précise, et c'est une totale raison d'être dans l'univers. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de pouvoir s'assurer quand ils sont projetés comme ceci. Voilà. Donc c'est un peu un peu une question-réponse. Voilà. C'est un peu un ping-pong finalement entre la littérature qui fait le steampunk et le steampunk qui fait la littérature. Je pense que c'est
même ressenti pour toi.
Alors oui. D'ailleurs, je ne vais pas en dire plus sur le côté les accessoires, etc., qui ont une vraie utilité, à laquelle on trouve un côté pratique. Par contre, au niveau de tout ce qui est visuel, moi, quand on dit visuel, je pense film. Dans mon cas précis, les films qui ont le plus d'importance pour moi au niveau visuel et steampunk, paradoxalement, c'est le western. Il y a beaucoup de westerns qui font du steampunk sans le savoir. Alors là, on pense tous à Wild Wild West, évidemment. Et on pense moins aussi à la reprise coréenne, alors désolé pour l'accent, The Good, The Bad, The Weird, j'ai pas le nom en coréen, désolé, qui est en fait, qui fait du steampunk sans dire, l'entrée en scène avec la locomotive, la traversée de strates sociales dans les wagons, etc., les grands paysages, les machines, les héros qui vraiment ont des petits accessoires, l'air de rien, il y a des éléments, il y en a un, le bad, il a le doigt coupé là, et la manière dont c'est présenté dans le film, dans cette précise là, elle est très steampunk en soi. Il y a beaucoup, on aborde, c'est à la fois un film social, un film western, un film d'aventure, et il y a des machines. À un moment, il y a une scène surréaliste où ils se battent contre le bad, il y a le good et le weird qui se battent ensemble contre lui. Et dans cette scène là, en fait, celui qui est donc bizarre se dit « Oh génial, ce truc, je vais le mettre sur la tête, ça va me protéger. » En fait, c'est un scaphandre. Voilà, et donc il se bat avec ça, et c'est très très drôle, c'est vraiment une scène complètement surréaliste. Et il y a plein de scènes comme ça, et il y a plein de films aussi, je peux en faire une liste incroyable, mais la plupart du temps, ça tient du western, pour moi. Peut-être pour ça que je suis partie du western, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, les films de western, etc., tiennent du steampunk. Pas tous, mais certains. Et c'est par là que j'ai découvert, et donc c'est pour moi l'esthétique la plus liée au steampunk. Après, au niveau tout ce qui est mode, visuel, etc., j'aime beaucoup. J'ai pas encore assez de compétences pour travailler moi-même, je commence à bidouiller un petit peu, mais pas beaucoup, avec précaution. Mais franchement, c'est quelque chose que j'admire énormément, et au niveau des sources d'inspiration, quand on veut vraiment créer des univers visuels, vers quoi je me tourne, donc vers les films, mais aussi vers tout ce qui est photos de mode, etc., photoshoot, et j'ai tendance généralement à dire « voilà, je me suis inspiré de ça, allez voir, vous verrez la tenue de Cara, j'imagine un peu comme ça, c'est telle photo, tel modèle, etc. » Et généralement, ça me plaît bien parce que ça n'impose pas d'image, en même temps, ça donne un aperçu, cohérent.
Justement, sur la partie visuelle, et Étienne, tu viens de sortir France steampunk. Quelle est l'importance justement de ce visuel dans ce mouvement steampunk qui existe aujourd'hui?
Dans France steampunk, le projet était de faire un livre à trois. donc deux auteurs et un photographe, et de travailler à égale importance aussi bien le texte que le visuel pur, qui se reposait lui sur les compétences et les talents de la communauté de la vaporiste française. Donc afin de mettre en évidence tout ce vivier de passionnés qui existe et qui crée. Donc l'importance du visuel, oui, il y a aussi visuel vu par le photographe, va pour certains transfigurer, transformer le costume pour obtenir quelque chose, pour devenir bigger than life. Donc la force du visuel pour les stand-up, c'est que c'est une esthétique qui est immédiatement reconnaissable, qui est immédiatement explicable. On n'a pas besoin d'expliquer ce qui est stand-up, ce qui montre une photo et on comprend de suite les codes du genre, même sans avoir besoin de se les expliquer, parce que comme le disait Nicolas, c'est dans notre culture, et on réagit aux quatre tours dessus, ce qui permet immédiatement de partir sur des imitations, sur des créations, sur des variations encore et encore.
Une petite question sur les personnages. Souvent, c'est une bonne qui est plutôt fin 19e ou début 20e, souvent sous l'angle un petit peu victorien, avec des sociétés très corsetées, si je peux me permettre. Comment est-ce que vous travaillez ces personnages et c'est par rapport justement aux époques?
Je m'occupe du côté punk de steampunk en fait. Les personnages, en fait, surtout les femmes, du coup, dans mes sociétés décrites dans les romans, ont tendance à ne pas vraiment être corsetées. Enfin, elles sont vraiment, elles évoluent déjà hors de la société. Et les personnages principaux aussi, en fait. Et je pense que c'est ce qui... Il faut jamais oublier le punk dans steampunk, parce que sinon, ce serait simplement de la. Comment dire, de la littérature historique d'aventure, etc., on n'aurait pas le côté un petit peu rebelle. Après, je ne sais pas, Étienne, si je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais moi, je trouve vraiment que le côté un peu rebelle, c'est très important dans le steampunk. D'ailleurs, on le voit, même dans les avions volés, on a un sauteur d'épines, lui, il a un petit côté rebelle, malgré son côté très propre sur lui, etc. Il est quand même, il évolue aussi quelque part en dehors de sa culture. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important.
Oui, alors ben, merci. Et donc, moi justement, je suis dans une disposition un peu particulière sur les amants volés parce que là, j'ai des personnages historiques. Donc, il fallait, à la fois, j'ai une certaine liberté parce qu'ils évoluent plus tout à fait dans le monde réel, enfin dans l'histoire telle qu'on la connaît, et en même temps, effectivement, j'essaie de m'attacher à leur personnalité, effectivement. Alors, comme tu dis, effectivement, le préfet Lépine. Et voilà. Il a un côté effectivement très très vieille France, très très avec des principes bien, etc. Mais effectivement, il se retrouve en décalage, avec les. Il a ses idées bien à lui, bien arrêtées, effectivement. Et voilà. Et donc après ça, moi pour la création des personnages, effectivement, il fallait quand même que je suive les personnages tels qu'ils ont été, dans leur vraie vie. Avec une certaine marge de manœuvre, mais il fallait que je les suive et en même temps, qu'ils aient leur propre, qu'ils aient leur personnalité réelle et puis que je leur donne un peu de liberté en même temps là-dessus. J'ai pris quand même des grosses libertés, en particulier sur leurs mœurs, mais enfin bon, je pense pas qu'ils m'en voudront vraiment fondamentalement, quoi. Voilà.
On est pas mal sur la partie littéraire, puisqu'on a la chance d'avoir plein de gens costumés. Je voulais juste demander à l'un d'entre vous, ou aux trois, pour vous, c'est quoi le steampunk exactement? Comment est-ce que vous le vivez? C'est large, hein? Là, vous avez 3 minutes.
En 3 minutes, c'est pas possible d'expliquer. Le steampunk est très varié en fonction des gens. Moi, je résumerais ça en disant que c'est une culture. La culture, pour moi, c'est de la passion. Et je vis en fait à ma façon. Et je vais en 3 minutes pour la faire.
Et pour les autres?
Alors, je vais chanter une chanson parce que j'ai pas d'autres réponses. Non, après, moi c'est encore autre chose. C'est une passion aussi, mais c'est aussi mon travail. Disons que le steampunk me permet de prendre des libertés par rapport à l'histoire que j'étudie. vu que je bosse sur des choses qui sont historiques, qui n'est pas probable, étant donné que je travaille beaucoup sur des fantômes ou ce genre de choses, le but, et ça permet de plus facilement s'amuser, on va dire, avec, avec l'histoire, sans pour autant cracher dessus.
Petite question, parce que tu parlais de posture, on a des auteurs qui nous disent qu'il y a des auteurs qui les influencent, mais aussi tout l'aspect visuel, des costumes, des films. Vous, quand vous bossez sur des costumes, est-ce que c'est aussi de la littérature, est-ce que c'est des films, comment est-ce que vous travaillez avec des artisans?
Nous deux, faut qu'il y ait du vert.
Voilà, nous, notre base, c'est vert, déjà. Ça se voit, je crois. Alors moi, pour ma part, je travaille le cuir. Donc, j'ai commencé par faire du costume médiéval. Et comme j'ai une formation dans l'industrie, j'ai tout ce qui est mécanique et engrenage, donc du coup, j'ai voulu faire quelque chose de plus évolué. Et comme disait tout à l'heure, je me suis mis à faire quelque chose d'un peu plus évolué. Puis en forme de rechercher, je me suis rendu compte que ça avait un nom et qu'il y avait une culture. Pour ce qui est de la création, c'est l'influence de partout, que ce soit visuel, film, livre, discussion, des idées au milieu de la nuit, ça vient de partout, tout d'influence lors de la création, donc on ne peut que reproduire au final.
D'accord. Une petite question pour finir sur Ethan, parce que le temps imparti est terminé. Est-ce que vous distinguez, c'est quoi le steampunk de demain? Est-ce qu'il y a des tendances qui émergent? Est-ce que le steampunk va se renouveler? Ou est-ce qu'on va rester dans ce qu'on connaît déjà?
Ah non, le meilleur est à venir. Il y a deux grosses tendances. Il y a le steampunk de l'exagération, donc des machines gigantesques qui deviennent de plus en plus grosses. Mais de l'autre côté, il y a le steampunk du minimalisme, c'est-à-dire où la forme steampunk va se réduire un petit peu, et ce sont des univers très, quelque part très, très proches de l'Uchronie, donc de l'histoire alternative. Donc il y a ces deux branches qui sont là, qui ne sont pas exclusives l'une à l'autre, voilà. Mais ça montre justement que les créateurs d'aujourd'hui et les créateurs de demain, parce que ce qui va apparaître, ce que l'on va voir l'année prochaine, ce sont des choses qui sont en travail depuis... et c'est quelque chose qui est extrêmement vivant et vivace. Comme je dis toujours, le steampunk est un requin, et quand il s'arrête de nager, donc actuellement, nous nageons.
C'est un joli mot de la fin. Bon, on va remercier nos invités, on vous remercie aussi. Il y a aussi d'autres steampunk chez Nesquitter et chez Sommorel. N'hésitez pas à aller voir. Merci à tous.